Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Marc Jamin, qui est éditeur, et Anne-Cécile Guittard, qui est responsable de service communication et également commercial. Alors, Marc, qui êtes-vous ?
Eh bien, bonjour. Comme vous l'avez dit, je suis éditeur. Je dirige la maison d'édition Yellow Concept, qui se trouve à Saint-Suliac, qui est une entreprise qui a une vingtaine d'années, que j'ai repris il y a 2 ans. Mon père avait créé cette entreprise, du coup, en 99.
C'est déjà une belle existence pour une maison d'édition.
Oui, c'est une belle existence. Alors, il a commencé tout seul, puis on a développé ça ensemble depuis une dizaine d'années. On travaille ensemble. Et aujourd'hui, on est assez fiers, oui, de ce qu'on a fait, d'où on en est. Les temps changent, l'équipe aussi, donc la ligne éditoriale change et notre façon de travailler aussi. On s'adapte à l'ère du temps.
Anne-Cécile, vous êtes qui ?
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors moi, donc, je suis chargée de communication et commerciale depuis un tout petit peu plus d'un an au sein de la maison d'édition. C'est moi qui vais voir les libraires, défendre nos auteurs. Je suis également en charge de mettre en ligne et de diffuser les nouvelles parutions sur les réseaux sociaux, sur Internet, auprès des journalistes et de la presse en général.
Nous sommes en Bretagne. Saint-Suliac se situe où ?
Alors Saint-Suliac est dans le bassin malouin. C'est un petit village de même pas 1000 habitants qui se trouve sur les bords de Rance, côté Ille-et-Vilaine. Donc c'est vraiment un petit paradis de la région de Saint-Malo.
Un paradis au pays des corsaires, c'est quelque chose de formidable ça.
Eh oui, et des corsaires, il y en a encore, je peux vous le dire.
Surtout ah là-bas. Ouais. Vous en avez rencontré récemment?
Pas mal, oui.
Et alors, la Bretagne pour vous, c'est quoi alors ?
Ah, ben la Bretagne, c'est la maison. C'est la Bretagne, c'est la mer. Je suis passionné de bateaux et je pense que c'est le meilleur terrain de jeu pour tout marin, pour profiter. C'est aussi une culture, c'est des gens, des gens qui ont du caractère, qui aiment leur région. Et je pense que tout le monde la défend bien, notre Bretagne. Voilà,
ils aiment bien leur région, hein. Je veux parler des Malouins, des gens sympathiques au demeurant, mais quand on leur demande qui ils sont, ils disent on est français, on est breton, mais Malouin d'abord.
Ouais, ou ni français ni breton,
Malouin suit.
Malouin suit, vous voyez, je déformais un peu, mais... Comme quoi avoir en face de soi des Malouins, chers amis auditeurs, les avoir, vous parler de Saint-Malo et continuerait. La Bretagne, c'est seulement Saint-Malo ?
Non, la Bretagne, c'est pas Saint-Malo. C'est évidemment, ce n'est pas que Saint-Malo. Je pense même que Saint-Malo, c'est un peu la frontière. C'est les gardiens de la Bretagne. Toute la Bretagne est magnifique. Je connais un petit peu moins les terres, mais c'est vrai que toute la côte bretonne, c'est vraiment superbe. Et ayant un peu voyagé... Je suis toujours content de rentrer, vraiment.
Et Anne-Cécile, pour vous alors ?
Alors pour moi, la Bretagne, c'est une grande histoire d'amour. C'est ma terre d'asile, c'est mon refuge. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je suis partie en Corée du Sud, en Australie. Mais pour moi, il y a une seule destination de retour possible, c'est la Bretagne. J'y ai grandi. Aujourd'hui, j'y vis avec mes enfants. Je vois pas où est-ce que je pourrais vivre ailleurs. Quitter la Bretagne, c'est toujours pour mieux revenir. Saint-Malo en particulier. Voilà, j'y suis très très attachée. On sait que Saint-Malo a toujours été une région de grands voyageurs. Donc, je suis dans cette lignée-là. Et je suis revenue au Rocher, comme tous les Malouins.
Au Rocher.
Exactement.
Une bonne formule.
Voilà.
Et Alors, votre maison d'édition, vous nous disiez que vous étiez d'abord avec votre père qui a créé l'entreprise. En fait, il faut quand même un sang d'entrepreneur.
Il faut un sang d'entrepreneur, et je pense que mon père l'avait. Il a mis toute sa carrière à réussir à créer cette entreprise. Je pense que pour arriver à quelque chose qui fonctionne, faut savoir faire des erreurs, faut savoir recommencer. Il a recommencé plusieurs fois jusqu'à Yellow Concept, qui maintenant est une entreprise solide et je pense qu'on sort des ouvrages de qualité. Et voilà.
Et votre père aussi faisait de l'édition ?
Mon père faisait de l'édition, il a fait de l'édition toute sa vie. Différents types d'éditions, mais Yellow Concept est parti surtout grâce à l'édition scolaire. On travaille avec des enseignants spécialisés, dont une personne en particulier, Fernand Boutimi, qui a créé les évaluations diagnostiques. Ce sont des évaluations qui sont pour les enfants de la grande section CM2, dont le CP et le CE1 sont imposés par l'État. Et donc ça, c'est le cœur vraiment de l'entreprise qui a donné la possibilité de pouvoir éditer toutes sortes d'ouvrages qui nous plaisaient et pas rester dans le financier en permanence. C'est vraiment, c'était du plaisir pour lui, pour mon père, de choisir ses ouvrages.
Ça, c'est pour un éditeur, ça devrait être quelque chose d'essentiel et vous avez du mérite à considérer les choses comme ça, en disant que c'est pour le plaisir du lecteur, pour le plaisir du livre, du beau livre, du bon livre plutôt, du beau aussi d'ailleurs, un livre de qualité qui plaît, donc un choix. Et que le côté financier, il est nécessaire à l'entreprise, tout le monde le sait.
Bien sûr.
Mais ça ne passe pas avant. On connaît des fois des maisons d'édition aujourd'hui.
On trouve l'équilibre. Ouais. On trouve le bon équilibre. Mais on a aussi la force d'avoir notre imprimerie. C'est-à-dire qu'on maîtrise, on maîtrise toute la chaîne de l'auteur jusqu'au lecteur. Et ça, c'est aussi une force parce qu'on est, on est totalement indépendant. Donc je pense que c'est aussi un atout pour nous de pouvoir s'autogérer.
Quoi. C'est un atout considérable. Et pour l'économie de la Bretagne, c'est essentiel finalement. Parce que le livre fait partie du système économique à part entière. Et quand tout est créé en Bretagne, de A à Z, c'est pas être chauvin, on n'est pas...
Non.
Un peu mal loin, mais pas trop.
Juste ce qu'il faut.
Juste ce qu'il faut, breton. Et il n'empêche que quand on voit l'économie du livre, c'est malgré tout beaucoup d'argent, et tant mieux, là. Tant mieux qu'il y ait investi. Et quand on fait des petits calculs, on se demande qu'est-ce qui reste, finalement, au niveau local, au sens large, quoi, de toute cette économie. Et parfois, chez certains, il n'en reste pas beaucoup. Tandis que chez vous, c'est 100% en réalité.
Si je puis me permettre, on est quand même dans un cercle relativement vertueux, puisque en termes de stock, si vous voulez, on est une maison qui existe depuis 1999. On a des ouvrages qui sont relativement anciens aujourd'hui. Si demain, un libraire nous demande pour un client un ouvrage qui n'existe plus, on peut le refabriquer en 5-10 exemplaires. Donc on n'a pas ce problème de surstockage que rencontrent énormément de maisons d'édition, quelle que soit leur ampleur, quelle que soit leur taille, puisque finalement on n'a pas cette sous-traitance. À l'heure actuelle, avec la crise économique que l'on connaît, c'est vraiment une de nos forces. C'est-à-dire on est petit, on a des petites fabrications, mais on reste complètement maître, en fait, du stock que nous avons en possession. Quel que soit le nombre de tirages, qu'il s'agisse d'un album jeunesse, d'un roman, d'un récit historique, on peut toujours refabriquer l'ouvrage en petite quantité. Et je pense que c'est notre force.
C'est un élément essentiel et c'est de la force. Le mot « petit », justement, dans l'économie... quand on est petit, on dit « Oh, celui-là est petit ». Les grands, ils se jugent par leur poids. Combien ils pèsent ? Alors, tu te dis, vous vous dites « Bon, combien je pèse quand je monte sur la bascule ?» Non, combien de millions ils représentent ? C'est ça, le poids réel aujourd'hui des individus.
Oui, quand on dit petit, c'est plus aussi par rapport à notre structure. On est une petite équipe.
Oui.
On a quand même des marchés nationaux. Donc oui, c'est pas une question d'être petit. C'est vraiment qu'on s'est décidé par nous, on veut être une petite équipe, voilà. Mais travailler en équipe.
Ouais. Oui, c'est un choix.
Ça, c'est un choix et on se connaît tous très bien, on a l'habitude de travailler ensemble et ça, c'est une force.
C'est une force d'autant plus que, justement, petit dans ce sens-là, c'est une très très grande qualité. C'est irremplaçable. Et puis, vous êtes toujours dans le livre de A à Z. Et c'est vous qui choisissez, c'est vous qui le pratiquez, c'est vous qui le vendez. C'est pas un livre dont l'impression est confiée à je ne sais pas qui, la distribution on ne sait pas qui, ce qui fait que je pense même qu'au niveau du travail, qu'est-ce que c'est le travail en fait ? Un travail qu'on maîtrise, on a envie de le faire parce qu'on veut le faire bien. Un travail qui est dispatché entre plusieurs, quand il y a un problème, là, c'est pas moi, c'est lui, on ne sait plus très bien où on est, quoi. Donc petit, oui, je pense que c'est une force, peut-être une force considérable aujourd'hui.
Quand j'ai rencontré Marc dans le cadre de notre collaboration professionnelle, il m'avait bien expliqué que finalement, ces évaluations scolaires, qui étaient un peu la source même de revenus finalement de la maison d'édition, il m'a bien expliqué que finalement, si demain il voulait se développer à l'échelle nationale, il en avait les capacités parce qu'il y a une réelle demande. Mais que ce n'est pas ce que lui, en tant que gérant, souhaitait. Au contraire, ce qu'il voulait, c'était rester, garder cette dimension humaine et pouvoir faire par ailleurs des livres qui nous plaisent. Auxquels on croit, continuer à conserver cette relation avec les auteurs, cette relation privilégiée, et faire finalement ce qui nous plaît, sans se dire « Ah oui, les évaluations scolaires, c'est la vache à lait, on va en faire une super structure et on va embaucher 50 personnes et on va se faire... » c'est pas l'objectif, en fait. Et c'est ça aussi, moi, en tant que salarié, qui m'a intéressée. Ouais. C'est tout le rapport humain et effectivement les relations qu'on a dans l'équipe. On travaille tous vraiment en totale confiance et on sait où on va.
Pour nos auditeurs qui posent souvent la question, je vous la pose à mon tour. Quel est le travail d'un éditeur ?
Alors, le travail d'un éditeur, il est d'abord dans le choix de l'ouvrage. On reçoit des manuscrits presque tous les deux jours maintenant. On a créé un petit comité éditorial, donc nous sommes cinq aujourd'hui à lire tous les manuscrits qu'on reçoit. Donc ça, c'est le premier travail de l'éditeur et de son équipe, c'est de choisir. Une fois que le choix est fait, on a toute l'équipe technique qui va monter l'ouvrage, qui va monter, c'est-à-dire faire la mise en page. Ensuite, la mise en page faite, il y a toutes les corrections, les relectures qui prennent un certain temps. Et parallèlement à ça, Anne fait la promotion de l'ouvrage, commence à chercher des pistes pour la distribution. Donc voilà. Et l'éditeur, il a un œil sur tout ça, mais il donne aussi sa décision finale. Donc c'est vraiment le choix, l'aide à la réécriture, l'aide à la correction, la distribution. Pour nous, le travail de l'éditeur est très vaste, en fait. Voilà,
c'est aussi l'accompagnement de l'auteur. Voilà, la négociation du contrat, cibler... le public approprié, c'est rassurer l'auteur qui, parce que on s'en rend peut-être pas compte, mais lorsqu'un auteur met 6 mois, 1 an, 2 ans, 15 ans à écrire un ouvrage, il y met ses tripes, il y met tout, c'est une mise à nu pour lui et il a besoin clairement d'être accompagné, d'être rassuré. On est là pour ça, on est là pour le conseiller, parce que voilà, on édite beaucoup de livres, notamment beaucoup de romans, et y a vraiment une démarche d'accompagnement, de bienveillance à l'égard d'un travail de, en général, un travail de longue haleine.
On rentre dans l'intimité
de l'auteur. Donc il y a à la fois des aspects juridiques, financiers, humains, émotionnels. Et quand on aborde le sujet de la relecture, c'est pas toujours évident. Donc il faut savoir mettre les bons mots, accompagner correctement, avec respect, avec humilité. C'est un exercice difficile, mais passionnant.
Un exercice difficile, oui, la relecture.
Tout à fait.
On comprend déjà comme auteur. Mais je souscris tout à fait à ce que vous dites, bien sûr, parce que l'auteur, il a mis plein de choses. Et puis, il croit avoir bien fait son truc. Et quand, je pense, vous lui transmettez le résultat de la relecture...
Il faut savoir qu'il accepte les corrections qu'on lui propose. Mais c'est vrai.
Ça fait partie du jeu. Ouais. Et c'est pour ça que ça nous semble très important d'avoir des lecteurs très différents dans le comité éditorial. Parce qu'on a à la fois des gens issus du milieu du livre, on a des lecteurs, des grands lecteurs passionnés, on a plusieurs profils de lecteurs. Parce que chacun vient avec son bagage culturel, avec son affect, et aussi ses propres envies, sa propre curiosité. Et ça permet d'être le plus objectif possible par rapport à un texte donné.
Le choix du manuscrit, est-ce que, bien sûr, il y a des idées, mais est-ce que vous jugez aussi sur la cohérence du bouquin, sur le style ? Voire sur l'orthographe d'ailleurs, hein. Si les manuscrits qui vous sont proposés, ils sont déjà suffisamment avancés en général.
Alors, ils sont pour l'auteur, souvent, il est abouti. Malheureusement, tout n'est jamais abouti. Il y a encore beaucoup de travail derrière. C'est-à-dire, on peut avoir un manuscrit qui est parfait et qu'on peut éditer tel quel. Ça arrive. Mais la majorité du temps, il y a quand même pas mal de parties à réécrire. Donc c'est là où justement le comité intervient et on fait une petite synthèse de tout ce qui a changé et on vient l'amener à l'auteur. Et c'est là où il faut avoir du tact et puis réussir à le faire retravailler son ouvrage. Et comme le disait Jacques Bellet d'ailleurs, qui a eu le Grand Prix des auteurs bretons, un auteur qui nous ramène les corrections en un mois, c'est pas fini. Il faut plus d'un mois, il faut du temps pour réécrire, pour revenir sur l'ouvrage, sur les textes. Et ça, on le ressent. C'est pour ça que ça prend du temps, du tact, et voilà, faut pas presser les choses. Faut faire naître le livre.
Il faut que l'auteur soit conscient de ça.
Exactement. Mais ils en sont conscients en règle générale, on a peu de réticence. Il faut toujours faire attention.
Là, vous menez en parallèle, en quelque sorte, l'impression. Et puis la distribution, ce qui est une bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire quand vous avez un manuscrit, il est terminé, il est prêt à être imprimé, et en même temps, vous, Anne-Cécile, vous avez déjà démarché un certain nombre de librairies, mais à côté de la démarche libraire, est-ce qu'il y a un travail de communication aussi qui commence à ce moment-là ?
Alors, le travail de communication, il démarre peu avant la sortie du livre et il s'inscrit vraiment dans la durée parce que vous avez tout au long de l'année des salons, des événements qui animent la vie littéraire locale. Il ne faut pas oublier qu'un livre, à partir du moment où il est sorti, il n'appartient plus à l'auteur, il n'appartient plus vraiment à l'éditeur non plus. C'est-à-dire que c'est une collaboration entre l'auteur et l'éditeur pour faire vivre le livre dans la durée. Il faut que le livre s'inscrive dans la durée. Donc, il peut faire l'objet de conférences, d'entretiens, de revues, ou de salons, enfin, par exemple, le livre de Jacques-Yves Bellet dont on vient de parler, qui a obtenu le Grand Prix du roman des écrivains de Bretagne.
Donc nous l'avons invité, entre parenthèses, sur cette antenne, il y a quelque temps.
Tout à fait.
Pour présenter effectivement son livre.
Exactement. C'est un livre qui est sorti en 2020 et qui a été finalement remis... d'actualité, remis en lumière grâce à ce Grand Prix. Donc un livre, il faut vraiment... moi, je considère ça la communication et tout le chemin qu'on fait avec l'auteur, c'est vraiment un marathon. Parce qu'il faut, saisir les occasions, il faut saisir les chances de parler du livre, d'aller défendre l'auteur, n'importe quand, dès que l'occasion se présente, tout simplement.
Il y a des détails, enfin on appelle ça des détails, mais ce sont des choses de très grande importance. Je pense au titre et à la couverture.
Eh bien, vous avez tout à fait raison. C'est des choses qui,
voilà, c'est capital.
Qu'on change depuis justement 2-3 ans. On travaille beaucoup sur les couvertures. C'est vrai que c'est le premier aspect du livre. Un lecteur va dans une librairie, il va être attiré par un ouvrage, par sa couverture, par son titre aussi. Mais la couverture, la couleur, le graphisme, tout ça, c'est très important. Ça, c'est notre travail à nous de proposer à l'auteur des couvertures. Alors, il nous amène ces éléments. Il dit « j'aimerais que telle ou telle chose apparaisse ». Mais c'est nous qui la proposons. Et au niveau du titre, on se concerte. C'est une réflexion commune au comité de lecture, l'auteur et moi-même. Et on tombe toujours d'accord. Mais ça, c'est vraiment le choix de tout le monde. On travaille encore une fois, on travaille en équipe là-dessus.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis, on a des... Pour l'instant, on a de la chance parce qu'on a vraiment des relations très, très riches et très fructueuses avec les auteurs. Et on a une collection de romans qui s'appelle la collection D'ici et d'ailleurs, qui a été créée en 2018-2019. Voilà. Et donc, commence à avoir une belle collection. Nous allons bientôt inaugurer une nouvelle collection qui s'appellera Art et Société. On va probablement également avoir une collection de polars, dont ça se passera essentiellement autour de Saint-Malo, dans la région, Cancale, la Côte d'Émeraude. Voilà, on a également des collections d'albums jeunesse, Petit Capitaine. Finalement, il y a une certaine logique qui s'inscrit lorsqu'on découvre un manuscrit. On se dit, tiens, celui-ci, ce manuscrit-là ferait volontiers partie de telle ou telle collection. Après, comme on a tendance à élargir le champ des possibles en termes de choix éditoriaux, c'est intéressant parce que finalement, c'est aussi grâce aux rencontres que l'on fait qu'on se dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à créer, il y a quelque chose de nouveau à faire. Et allez, on y va, c'est parti. On va se lancer dans une nouvelle collection. Parce que, encore une fois, on a cette souplesse de travail qui fait que c'est aussi au gré de nos rencontres qu'on peut un peu affiner, si vous voulez, les contours de la maison d'édition.
On sent le professionnalisme très avancé, en ce sens que, pour un éditeur, il y a bien sûr choix du manuscrit, tout ça, technique, mais c'est anticiper ce que peut devenir le livre et qui peuvent être les lecteurs.
C'est ça. Mais on le sent assez rapidement. On le sent rapidement avec le thème de l'ouvrage. L'auteur écrit de telle ou telle façon, il ne peut pas plaire à tout le monde. Chaque lecteur aime un style d'écriture. Mais au niveau du sujet de l'ouvrage, on sait quel public on va aller chercher. Voilà. Et ça, on le sait directement. Et c'est là où la communication commence. On a un choix de lectorat. On va aller viser ce choix-là. Et les réseaux sociaux, les newsletters qu'on peut envoyer, tout est ciblé. Mais ça, on le sait dès le début. On commence à travailler dessus.
Et c'est vrai que là, depuis un moment déjà, on a beaucoup d'ouvrages à visée pédagogique. Et là, on a eu une très belle rencontre avec une auteure originaire de Lorient, Anne-Marie Leroux. On a sorti son livre qui s'appelle « Rendez-vous, place de la démocratie », qui est un ouvrage qu'on destine aux ados, à partir de 13 ans. Et c'est vraiment un questionnement sur la démocratie, sur la liberté d'expression. Sous forme de... C'est un petit conte, en fait, des petites scénettes. Ça a l'air très naïf comme ça au premier abord, mais l'auteur pose des questions très lourdes de sens. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait l'éditer parce qu'on a toute cette démarche pédagogique déjà depuis des années. Ça s'inscrit vraiment dans notre lignée éditoriale. Et en même temps, on n'a jamais eu de roman ado. Donc finalement, c'est une nouveauté dans notre ADN. Donc c'était vraiment une très très belle rencontre et on est très fiers de cet ouvrage.
Et comme nouveauté, alors en cours actuellement ?
Alors, en cours, on a...
2050.
On a 2050 qui va être un...
Une étude sociologique sur le bonheur. Anne. Voilà. Par Monsieur Leroy, qui a une carrière politique très, 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 très riche, j'en dirai pas plus, et qui, du coup, a souhaité mettre à plat un petit peu
L'état de notre société.
L'état de notre société, par différents prismes. On parle de l'emploi, on parle de la nutrition et de la malnutrition, bien entendu. On parle de la démographie, on parle de la santé, de l'accès à la santé, de l'accès à l'éducation.
À l'échelle mondiale.
À l'échelle mondiale. C'est une étude tout à fait passionnante. Et on pensait que ce serait tout à fait approprié de sortir cet ouvrage avant les élections présidentielles.
Est-ce que vous pensez que le bonheur se construit ?
Tout à fait.
Rien n'est acquis. On approche la fin de l'émission. Et pour vous, le bonheur, c'est quoi, Anne-Cécile ?
Oh, c'est un vaste sujet. Oh, je dirais que c'est une forme d'équilibre, mais il faut que la curiosité soit toujours stimulée, toujours. Sinon, on tombe vite dans l'ennui et ça, c'est d'une tristesse absolue.
Ah oui, et puis il ne faut pas...
C'est d'une tristesse absolue.
Non, il faut garder...
La curiosité, ça, c'est la clé des champs.
Et pour vous, Marc ?
Moi, je vais être très simple. Le bonheur, c'est la mer.
Et le bateau ?
La mer, le bateau, voilà.
Le large, en fait.
Le large, la liberté, la Bretagne, voilà, on en revient là.
Ouais.
Le travail, c'est un plaisir, déjà, mais le bonheur, il se cherche aussi... C'est une globalité, donc... Pour moi, pour ma part, c'est, oui, c'est ça. Le voyage, le bateau, la Bretagne.
Les idées simples sont les meilleures. Et effectivement, le bonheur, c'est quand on se sent bien.
Exactement.
Pour moi, maintenant. Et quand on se fait plaisir, et qu'on peut aussi se faire plaisir à l'endroit où on est, et quand on a envie, en réalité. Sans pour autant évoquer, bien sûr, la liberté avec d'autres. C'est aussi être ensemble, mais vraiment faire ce
qu'on aime.
Qu'on peut, quand on a envie, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Nous venons d'accueillir des gens heureux, heureux de leur profession,
oui,
des éditeurs heureux, et puis alors, bonne continuation, puisque vous avez déjà une grande réussite, continuez à réussir comme ça, et bravo pour ce que fait Yellow Concept Éditeur. C'était Un auteur, une voix, avec écrivainbreton.org. Nous recevions Marc Jamin et Anne-Cécile Guittard pour les éditions Yellow Concept.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.